Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les palmés de la critique. J'ai nommé Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Eric Neuhoff du Figaro, Pierre Murat Pierrot de Télérama, pour un programme qui est presque exclusivement cannois, puisqu'on va parler de la Palme d'Or, de Bong Joon-ho, des Frères Dardenne, de Justine Triet, de Claude Lelouch, Dexter Fletcher, d'Alain Cavalier, et le seul à ne pas être à Cannes, c'est X-Men dans le courrier de la semaine. Et là, je suis sérieux, triste d'avoir reçu tant de messages acerbes sur le magnifique Douleur et gloire de Pedro Almodovar, tellement nombreux que je ne vais pas tout lire, simplement certains. Eric Angelini, c'est un film de vieux sur des vieux dont on se moque éperdument. Almodovar pleurniche et fait pleurnicher autour de son nombril. Fanny Joly, mon époux et moi avons la douleur de vous faire savoir que sur vos conseils, nous avons vu le dernier Almodovar. C'est un enchaînement peu glorieux de sniff d'héroïne et de flashback plâtreux, genre propagande années 50. Catherine Devin de Lyon s'est ennuyée à mourir durant cette auto-biofiction ancrée dans l'auto-apitoiement et à vocation auto-élégiaque. Je suis sorti du cinéma exaspéré. Arnaud Sanquer juge que ce trop-plein de narcissisme a fini par m'agacer. Madame Pérez nous dit que c'est un film impudique, lourd, inintéressant. Il faut dire que je suis d'origine espagnole. Et je trouve que ces douleurs, celles d'Almodovar, sont l'ordinaire de bien des gens de son milieu en Espagne. Jean-François Zekeli, je n'ai ressenti aucune émotion, les ficelles sont grosses. Monsieur Duceo, impossible de comprendre l'enthousiasme général pour cette sitcom sans la moindre once d'intérêt, c'est pénible. Ou encore Anne Maquignon d'Angers, qui dit que Douleur et gloire manque d'aspérité. Mon émotion est restée à l'entrée du cinéma et mes mouchoirs dans mon sac. Gilles Denecker de Brive, c'est trop lent avec des moments d'ennui. C'est un récit auto-centré. Ou encore Michael Moretti de Lyon, qui juge le film touchant, mais il manque d'universalisme, contrairement à Fellini. Alors heureusement, il y en a qui aiment, comme Édouard Vallée de Grenade en Espagne, qui trouve qu'Almodovar signe un drame magnifique, une réflexion sur la création, la dépression, le temps qui passe avec des scènes d'anthologie portées par un Antonio Banderas magistral, ou Philippe Poitier, qui dit que Douleur et gloire est à la fois romanesque, intellectuel, d'une grande force émotionnelle, un grand film d'une grande humanité. Pour Pierre Cusor, c'est un chef-d'œuvre. Et il ajoute que le jour de ma mort, un soir d'été de préférence, me soit permis de revoir Douleur et gloire de Almodovar et de relire l'après-midi en buvant du champagne, Un homme de Philippe Roth. Et Jean-Paul Lebris, si je devais expliquer à mes élèves de maternelle ce qu'est l'art, avec un A majuscule, je leur dirais que l'art c'est ça. C'est beau et ça nous ouvre le monde. Merci au masque qui me permet d'exprimer à Almodovar mon admiration et ma gratitude. Voilà pour ce courrier. Et enfin, Francis Roux me demande, et il a raison, d'avoir une pensée, je pense qu'elle peut être collective, pour Jean-Louis Bory, disparu le 11 juin 1979. 40 ans déjà, nous dit Francis Roux, est presque oublié. Ben non, il n'est pas oublié. Cher Francis Roux, Jean-Louis Bory, le brillantissime critique de cinéma du Masque et la Plume et dont il faut lire notamment Mon village alors allemande qui avait eu le prix Goncourt en 1945. Plein d'autres livres, dont un livre d'histoire sur la Révolution de Juillet qui était passionnant. Et puis le bouleversant, toujours actuel, Ma moitié d'orange qu'on trouve en librairie. Voilà, 11 juin 79, la mort de Jean-Louis Borry. Allez, et on commence tout de suite avec La Palme d'Or, Parasite du Coréen Bong Joon-ho, un film enthousiasmant, effrayant, drôle aussi, de 2h12, dont on a parlé, n'est-ce pas, Xavier, le soir, en direct du Palais des Festivals. Un film, évidemment, dont je pense qu'il ne faut pas trop raconter. Là, je me tourne vers Pierre.
Le début.
Pas trop divulgacher.
Pourquoi tu te tournes vers moi?
Pas trop le divulgacher. Disons que... Vous m'arrêtez, Pierre, tu m'arrêtes, si j'en dis trop.
Compte sur moi.
À Séoul, dans un sous-sol sujet aux inondations, vit une famille pauvre et au chômage, un père, une mère, une fille, un garçon. Voilà. De l'autre côté de la ville, dans un quartier très huppé, vit la riche famille Park, un père, une mère, une fille, un garçon, qui habite une villa moderne, très moderne, conçue par un architecte à la mode. Famille riche qui trouve que, en tout cas le père, que les pauvres sentent, là je le cite, le vieux radis et le torchon sale. Voilà, j'en dis pas plus, tu vois Pierre, sinon que ces deux familles opposées sont appelées à se revoir, sinon à s'entremêler, et que Bong Joon-ho jongle avec tous les genres, la comédie, le drame social, la fable politique, tendance marxiste, le huis clos théâtral, l'horreur, le gore, avec des références, puisque dans son hommage... Quand il a reçu la Palme à Cannes, il rendait hommage à Claude Chabrol et à Henri-Georges Clouzot. Pierre.
C'est-à-dire que j'ai sans doute trop entendu parler de ce film en le qualifiant de chef-d'œuvre. Alors, comme toujours, dans ces cas-là, je suis allé le voir et j'aime bien le film, mais j'arrive pas tout à fait à comprendre.
À le comprendre, oui. Mais ça, on peut t'expliquer si tu veux après.
Voilà. Justement, je vais vous écouter avec joie et plaisir.
Non, mais sérieusement, t'as pas aimé?
Non, je trouve ça bien, mais je trouve que par rapport à ce que faisait Bong Joon-ho, c'est-à-dire qu'il est quand même l'auteur d'un chef-d'œuvre qui s'appelle Memories of Murder il y a 12 ans, il a fait de très beaux films. Son dernier était déjà pas très bon, Okja, qui était à Cannes. Et celui-là me paraît, non, mais c'est pas qu'il est pas bon, je sais à l'avance ce que vous allez dire, les références que vous allez faire, parce qu'il y a quand même ces gorgées de références. Je trouve ça un peu balourd. C'est-à-dire que sur un sujet qui a été quand même beaucoup traité, les classes sociales différentes, alors Renoir les traitait dans La Règle du jeu d'une certaine façon.
Avec moins d'humour que Bong Joon-ho.
Altman les traitait aussi, Chabrol, j'en parle pas, Luigi Comencini, L'argent de la vieille, qui est un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il y a tellement de références et que ce film-là, pour moi, bien que, évidemment, si on veut me faire dire que c'est un navet, non, ce n'est pas un navet, sûrement pas. Mais pour moi, ça ne vaut pas le délire que j'ai entendu pendant Cannes et le délire que je lis. Je trouve ça très lourd.
Tu as un mérite, c'est que tu es le seul critique de la presse que je connaisse.
Le seul.
Qui fasse de la résistance. Hein.
Mais non, j'en ai un côté. Il m'a déjà annoncé la couleur.
Xavier.
Bon, il faut dire que moi, je l'ai vu au lendemain du Malik. Donc, tout à côté du Malik, qui était un pensum de 3 heures.
Terence Malik,
voilà, qui sortira, et là, sur les écrans, et que vous allez peut-être subir. Pensum de 3 heures sur la chrétienté face au nazisme. Tout ce qui pouvait me raconter le monde d'aujourd'hui avec intelligence, avec du cinéma, avec de la pertinence, avec de l'impertinence, avec de la causticité, sans jamais tomber dans le cynisme, je me prenais. Après, moi, Bong Joon-ho, je pense que c'est un des plus grands metteurs en scène, faiseurs, formalistes actuels, et c'est extrêmement agréable de voir un réalisateur faire autant confiance à la mise en scène, c'est-à-dire au pouvoir d'une image, au pouvoir d'un montage. J'ai pas dit que c'était le seul. Je dis que c'est extrêmement rassurant de voir un réalisateur faire à ce point confiance aux outils qui sont les siens pour nous montrer l'exiguïté du monde dans lequel vivent les pauvres, entre guillemets. Il suffit d'un seul plan quand le gamin cherche du réseau avec son téléphone portable. Il lève à peine le bras et le téléphone bute contre le plafond. Tout est dit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter.
Il a du mal à trouver quand même du réseau.
Ouais. Il n'en trouve pas. Les toilettes sont au-dessus de la baignoire qui est elle-même enchâssée dans la salle de bain. Enfin bon. Il y a une conception. Au-dessus de la table de la cuisine. Il y a une conception du décor qui permet une économie déjà du récit. On n'a pas besoin de le dialoguer. On n'a pas besoin de passer par l'explicatif pour donner quand même l'exiguïté, le sens. Vraiment de l'architecture des deux lieux principaux. On va faire très attention de ne rien dire. La maison des pauvres et la maison des riches, elle est quand même riche en possibilités cinématographiques qu'il exploite remarquablement. Il y a un humour féroce, méchant. Et ce qui est intéressant, c'est que les riches ne sont pas les salauds par principe. Ce sont pas des gens méchants, jusqu'à ce que le père, effectivement, ait un tropisme sur l'odeur des pauvres. C'est pas des gens caricaturés.
La mère est même plutôt touchante.
Non, la mère est touchante. Elle est un peu bébête. Elle essaye de parler un anglais qu'elle ne domine absolument pas. Elle pense que son fils, qui crayonne sur des feuilles en faisant des gribouillis, est un génie à venir. Donc,
Tout ça est épais. Ce que tu racontes est épais.
Eh ben, je ne trouve pas que ce soit épais. Je trouve que par rapport à ce qu'est la Corée actuellement, la Corée du Sud, qui effectivement est un pays à deux vitesses, avec des très riches et des très pauvres, ça tombe quand même de façon assez...
Burning le faisait 10 fois mieux, dit Chang-dong.
On l'a tous défendu ici, mais c'est pas le même registre. C'est un film qui épouse le genre, qui est jubilatoire. Pour une fois qu'on a une Palme d'Or qui fait rire, on va pas se priver.
Et plus on va vers la fin, plus on rit.
Non, mais c'est formidable, allez-y.
C'est brillantissime. Voilà un gars qui a une virtuosité. On a l'impression que le cinéma a été inventé pour lui. Il fait ce qu'il veut. Là, il nous tire le tapis sous les pieds sans arrêt. Il passe d'un registre à l'autre.
Et pendant 2h12. Hein.
Et ouais, c'est très très fort. Hein. C'est vraiment comme un millefeuille qui a un goût de toutes les couleurs. Et pourtant, le sujet n'est pas nouveau. Les riches, les pauvres, la maison d'architecte, le sous-sol humide, plein de cafards. Mais il arrive à insuffler une invention, une modernité à tout ça, avec ces deux familles en parallèle qui vont bientôt être en perpendiculaire. Cette mère bourgeoise qui s'ennuie, qui est une gourde, mais qui est pas une méchante fille. Le père, lui, le PDG, qui ne voit rien du tout parce qu'il s'intéresse pas à grand chose à part lui et encore. Et comme tu disais, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté Marcel Aimé. C'est que les riches sont pas vraiment des ordures complètes. Les pauvres sont pas mieux que...
Ce sont pas des saints ni des victimes.
C'est pas des saints non plus. Si les pauvres ont une odeur, parce que l'anecdote a un intérêt dans le scénario, ça. On voit que l'argent, contrairement à l'adage, en a une aussi d'odeur. Et le film est très très malin, bourré de références, que peut-être nous trouvons de notre côté, auquel le metteur en scène n'a pas vraiment pensé. Mais c'est un théorème de façon collective, à la sauce asiatique. Et c'est un film d'une méchanceté. Ça aurait pu être signé par... Paul Jégoff, quand il écrivait les trucs les plus cruels pour Chabrol à l'époque. Non, c'est un très bon film.
Avec un troisième film.
Pour une fois, si une Palme d'Or n'est pas un pince-somme, que c'est un truc très, très jubilatoire, on va dire du bien de Cannes, pour une fois.
Et avec un troisième film qui se passe dans le bunker, donc dans le sous-sol.
On arrête tout de suite, Jérôme Garcin, c'est bon.
Jean-Marc.
Oui, en effet, c'est un film très malin, très rusé, mais pour moi, c'est vraiment sa limite. Et moi, j'ai vraiment le sentiment d'une Palme d'Or produite par algorithme.
Donc, tu es le deuxième critique à faire
la
résistance.
Moi, je suis très réservé, peut-être même encore plus que Pierre. J'étais extrêmement déçu, alors même que je tiens Bong Joon-ho pour un des plus grands cinéastes au monde, que pour moi, The Host ou Memories of Murder sont des films d'une complexité métaphysique, d'une ampleur immense. Là, tout à coup, je trouve que c'est une farce ricanante, très étroite, très fléchée. C'est-à-dire que la mise en scène, elle est brillante, mais en même temps, on voit toujours ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que sans arrêt, on sent l'intention. Je trouve qu'il y a quelque chose de presque appliqué dans la manière dont la mise en scène n'est que l'explication du scénario, sa démonstration, sa manière d'appuyer tous les effets. Et je trouve le film vraiment grossier dans ses procédés. Et si on a si peur, effectivement, de révéler des twists, et il y en a plusieurs dans le film, c'est parce que le film se repose trop commodément sur ses effets de surprise et passer ses coups de théâtre, un peu ex nihilo, que je trouve très manipulateur, je trouve que le film est un peu vain et pas si profond que ça. Et c'est comme un film de Chabrol auquel Bong Joon-ho a rendu hommage, mais sans le mystère, sans la profondeur et surtout sans l'inconscient. C'est un film qui est conscient de tous ses effets tout le temps. Et pour moi, c'est vraiment un faux chef-d'œuvre. Je pensais que c'était un grand cinéaste. Et pour moi, là, ce que je vois, c'est plutôt un film de petit maître.
Eh bien, le masque est fidèle à son esprit, puisque je ne pensais pas qu'il y aurait sur cette Palme d'Or attribuée à Parasite de Bong Joon-ho un débat aussi tranché. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, dans le public. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir.
Oui, juste dire en fait que la fin traînait un peu trop en longueur pour moi, sans la révéler. Il veut expliquer ce qu'il veut en dire, alors qu'il devrait laisser un mystère, un peu comme dans certains films américains où ça coupe net et ça laisse au spectateur de découvrir un peu la suite.
Le problème, c'est que
il explique la fin.
On ne peut rien ajouter,
voilà,
sinon.
C'est ça. Explique trop la fin. Voilà, c'est ça.
Merci monsieur. Une autre réaction dans le public du théâtre de l'Alliance française. Monsieur, bonsoir.
Je vais en profiter pour dire que je me suis ennuyé à l'Almodovar et je trouve pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre. Tandis que celui-ci, la mise en scène est absolument divine, c'est absolument sublime. Alors moi, j'ai tellement aimé la première fois que je suis allé retourner le voir. Et c'est absolument jubilatoire, parce que je me suis aperçu que dans la première partie, il y a plein d'indices par rapport à la deuxième partie.
Ça, c'est vrai, oui.
Et ça, vous ne le savez que quand vous le savez. Voilà. Donc, il y a une plongée, par exemple, sur l'escalier
Non,
je parle de la première partie. Quand il y a le mec qui fait pipi plusieurs fois, on lui balance de l'eau et c'est pas un hasard. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Quand la cuisinière, on dit qu'elle mange beaucoup, tout ça est absolument génial. Donc, je vous recommande d'aller le voir deux fois et vous allez voir que c'est absolument jubilatoire.
Voilà. Merci. Encore une réaction.
On t'a entendu, Murat. Une fois suffit, c'est bon.
Hein. Oui, bonsoir. J'ai trouvé effectivement que la mise en scène était magnifique. Il travaille tout sur son décor et sur ses plans. L'élément psychologique a été évoqué. On dit qu'il fait un cinéma à teneur marxiste. Je pense que là, il y a une erreur parce que dans la mesure où normalement, dans les films où il y a des grands bourgeois, ce qui caractérise les grands bourgeois, c'est une immense paranoïa, notamment vis-à-vis des classes adverses. Et là, ils sont pas paranoïaques du tout. En fait, ce sont de gentils riches, de vrais gentils riches. Voilà.
Merci. Il n'y a pas de réaction sur cette palme d'or, non. Eh bien, on va un peu plus rapidement évoquer les films suivants. Et notamment Le Jeune Ahmed, le 8e film des frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, déjà deux fois Palme d'Or, qui leur a valu le prix de la mise en scène à Cannes. Ça se passe en Belgique. Et c'est le portrait d'un garçon de 13 ans, Ahmed, joué par Idir Ben Hadi, un écolier studieux qui se transforme sous nos yeux en islamiste fanatique. Il est endoctriné par un imam intégriste. Il est en rupture avec sa mère qu'il traite d'impure. Parce qu'elle n'est pas voilée et qu'elle boit du vin, il est la fille de la ferme où il est placé en rééducation après avoir voulu poignarder sa professeure. Alors comme dans l'adieu à la nuit de Téchinet, sur exactement le même thème, c'est pas le même âge mais c'est le même thème, les frères Dardenne font le choix d'exposer sans juger, ce qui d'ailleurs ajoute un peu au côté glaçant de ce film. Jean-Marc.
Alors c'est pas tout à fait mon avis, c'est-à-dire que moi je trouve qu'ils exposent, font mine de pas juger, mais finalement quand même ils administrent une correction à leur personnage, et je dirais que de ce point de vue-là, le film de Téchinet me touche plus, oui, parce que je pense aussi plus profondément absolument humaniste et plus empathique. Alors, cela dit, c'est-à-dire que moi, je ne me reconnais pas vraiment dans la vision qu'ont les Dardenne de leur sujet. On peut pas trop en dire parce qu'on révélerait la fin, mais je trouve qu'il y a quelque chose de problématique dans la dimension punitive du scénario. Malgré tout, évidemment, la presse a un peu raillé que les Dardenne aient raflé encore une fois un prix à Cannes. Je trouve que ce prix-là de la mise en scène, il est quand même assez peu contestable. Je trouve qu'ils sont arrivés à un point de perfection de leur système qui est quand même très bluffant. Il y a vraiment un sens de l'intensité dramatique, un sens de l'incarnation aussi. Je trouve que, aussi bien sur la direction d'acteur que sur l'écriture des personnages, on sent vraiment de la vie qui circule. Donc je trouve que c'est vraiment un film puissant, un film beau, mais il y a un point où je n'arrive pas à être totalement en adhésion à ce que le film finit par dire.
Eric ?
Oh, c'est encore plus mauvais que le Téchinet sur le même sujet. Vraiment, faut aimer ce cinéma desséché, complètement plat. C'est un film qui ressemble à une vieille biscotte. On mâchouille un truc qui n'a pas de goût, ça nourrit vaguement, ça ne rend pas malade, c'est pas très bon pour la santé, et on en sort.
Oh non, c'est...
Bah non,
biscotte sans sel, il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est sans sel, c'est sans saveur, parce que vous dites, on le voit devenir djihadiste, pas du tout. Il est djihadiste, et ça n'est pas intéressant. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment ce gamin de 12 ans devient djihadiste dans une famille où les deux sœurs sont décontractées, où la mère boit du vin, on la comprend, elle a besoin d'un remontant pour supporter cette espèce de gourdiflot à table qui la traite d'alcoolo, et en arabe, hein, parce que c'est un dangereux djihadiste. Et on a une seule envie, c'est que ce gamin parte pour la Syrie, qu'on en soit débarrassé au plus vite. Là, et alors, c'est filmé avec une platitude comme ça. Je préférerais voir un numéro de M6 sur le drame des djihadistes en banlieue. Non, mais je comprends pas cet engouement pour les Dardenne depuis des années.
Moi, je ne comprends pas que tu ne vois pas qu'il y a que de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est
filmé platement. Il y a de la mise en scène dans Parasite, mais là, non.
Il y a une capacité à mettre sous tension tous les plans.
Il
n'y
a aucune tension, puisque on se fiche complètement de ce qui lui arrive.
Je trouve le film haletant, je trouve que c'est un suspense captivant de bout en bout.
Ah non, mais on apprend des petits trucs, on sait comment faire un poignard en aiguisant une brosse à dents. Non, mais tout est comme ça, là. Il refuse de serrer la main des femmes, mais ça, on le sait. Et je n'ai rien appris, moi. J'aimerais qu'un jour, un film m'explique comment ces gamins basculent dans l'islamisme radical.
Le sujet, c'est plutôt comment on en revient, tu vois.
Mais non, puisqu'on ne sait pas pourquoi il y est. Ouais. Donc, il peut lui arriver n'importe quoi. Et c'est pareil que dans le film de Téchiné. Moi, ce film ne m'a rien apporté à part un léger ennui, pas désagréable.
Pierre.
Ben, c'est magnifique. C'est un film absolument magnifique parce que c'est absolument épuré. C'est-à-dire ce que j'aime chez les Dardenne.
L'émission ce soir. Hein.
Ce que j'aime chez les Dardenne, c'est vraiment qu'ils prennent un sujet, ils le traitent avec une épure. Et en effet, alors là, je sais pas. Moi, j'ai été très sensible, contrairement à toi, Eric, au suspense, car c'est un suspense permanent. C'est presque Hitchcockien. À un moment donné, on le voit.
Le pauvre Hitchcock qui va mettre un turban, un voile, s'il entend ça.
Mais non, il le voit exact. On le voit exactement préparer son acte. Donc, c'est exactement la définition du suspense selon Hitchcock, c'est-à-dire le spectateur pressent ce qu'il va arriver, les protagonistes non, et on se dit est-ce qu'il va y arriver ou pas. Et donc, je trouve c'est une mise en scène absolument superbe. Et puis alors, sur le sujet, moi, ce qui me terrifie en même temps, je trouve que c'est un film à la fois très beau, mais très terrifiant, c'est comment, en effet, en sortir? Comment sortir? Parce que qu'il soit devenu comme ça, moi, personnellement, je m'en fiche. C'est, il est comme ça. Comment le sortir de là?
Et il n'y arrive pas. Mais on l'envoie en Syrie.
Non, mais non, justement, c'est ça le problème. C'est que, et ça, c'est toujours le cas des Dardenne, il compte sur une espèce de bienveillance, de choc, comme ça. Déjà, dans le premier, la promesse, il y avait une chute.
Ben là, là aussi.
Voilà. Et ben, on retrouve ça, mais on retrouve surtout un acte complètement gratuit qui permet, brusquement, d'entrevoir un espoir. Donc, c'est un film que je trouve absolument magnifique et à voir. Vraiment.
Xavier.
Moi, j'aime bien le film. Je suis moins enthousiaste que Pierre et je serais plutôt du côté de Jean-Marc. Heureusement qu'il y a la mise en scène des Dardenne. Heureusement qu'il y a leur façon unique de se rapprocher des personnages. On voit depuis leur arrivée dans le cinéma beaucoup de gens qui essayent de faire des films à la Dardenne. On prend en caméra à l'épaule, on filme les gens dans le cou et hop, on fait de la Dardenne. C'est-à-dire de la proximité, du faux cinéma vérité. Il y a vraiment qu'eux qui trouvent constamment l'exacte distance et la justesse de distance entre la caméra, leur regard et le personnage. Le problème, c'est qu'heureusement qu'il y a la mise en scène parce que le jeune Ahmed souffre un tout petit peu quand même d'un scénario construit en kit à la Dardenne. Là, ils sont un peu en train de se caricaturer eux-mêmes.
Ce n'était pas le cas du jeune du Téchiné, hein.
Dont on avait ici dit beaucoup de bien. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que j'aime beaucoup le film.
Pas Eric Dehoff.
C'est toujours intelligent, c'est toujours pertinent chez les Dardenne, mais on voit un tout petit peu le film se faire, s'articuler autour, effectivement, de ce qui est chez eux un peu le parcours obligatoire. La chute, on en a parlé, la rédemption, le personnage. Quand il s'agit de faire de la sociologie et de la distribuer sur des personnages secondaires, l'imam qui endoctrine le gamin, les parents qui s'engueulent pendant la réunion parents-prof sur faut-il enseigner l'arabe par le Coran, ou alors au contraire par des chansons populaires qui leur permettraient de parler un arabe plus vivant, plus de la rue, c'est un peu sommaire, c'est un peu dichotomique. En revanche, je vois Pierre qui lève les yeux, et il a raison, quand ils écrivent ce gamin qui cristallise sa haine sur le personnage de la prof de l'éducation, qui l'a aidé pourtant, puisque la mère lui dit au début, mais pourquoi est-ce que tu la détestes tellement? Elle t'a aidé justement contre ton échec scolaire, contre ton incapacité. Pourquoi ce gamin déteste-t-il autant cette femme et le système qu'elle représente? Et c'est là où les Dardenne sont très fin et très intelligent, il n'y a pas d'explication. Mais elle devient l'objet absolu, obsessionnel de sa haine, et ça dit une fracture. Moi, je n'ai pas besoin d'explication, contrairement à Eric Neuhoff, qui visiblement veut qu'on lui explique beaucoup de choses.
Je trouve que cette opacité et ce mystère
font partie aussi des qualités nombreuses de ce film.
Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne, pas de réaction sur ce film. Sibylle, le film de Justine Triet, la cinéaste de Victoria, qui était en compétition officielle et qui est reparti totalement bredouille avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, la copine d'Éric Neuhoff, Gaspard Ulliel, la Sandra Hüller de Tony Erdmann. Si tu te souviens de ce que tu avais dit comme horreur au moment du film du Kechiche?
Mais pas sur elle.
Si, sur les deux.
Non, j'avais pitié d'elle.
Laure Calamy et Sibylle, c'est donc... Alors, il faut me suivre quand même, hein. Sibylle, c'est donc Virginie Efira. Elle est psychanalyste et dès l'ouverture, pendant un déjeuner de sushi avec son éditeur, comme on en a souvent, hein, elle décide d'arrêter son métier pour revenir à sa première vocation, qui est la littérature. Seulement, voilà, il faut trouver un sujet de roman. Alors, elle va pas aller chercher très loin. Elle se jette sur le témoignage d'une de ses patientes, Margot. C'est donc Adèle Exarchopoulos, actrice en détresse et enceinte. Jolie Zogba, qui se demande si elle doit avorter le père. C'est donc l'acteur avec qui elle tourne un film à Stromboli qui est incarné par Gaspard Ulliel. Tournage que Sibylle, mariée, mère de deux enfants et amante de Nils Schneider, va s'empresser de rejoindre jusqu'à tenir la caméra. Mais là, je m'arrête parce que sinon, vous allez totalement perdre la notion du temps. C'est en tout cas une mise en abîme évidente.
un peu risqué, me semble-t-il, avec une Virginie Efira qui est, comme toujours, épatante. Un film qui dure 1h40. Eric.
Ah, c'est un très joli fouillis. Ça part dans tous les sens, mais elle retombe à peu près sur ses pattes.
T'es d'accord que c'est dur à résumer.
Oui, bah, on a bien entendu que tu n'y arrivais pas.
c'est assez limpide quand on le voit, quand même.
Oui, non. Mais
quand t'arrives au tournage à la fin, forcément limpide.
Ça se mélange un peu les pieds, mais ça fait partie du charme du film, parce que c'est entièrement porté à bout de bras par Virginie Efira, qui est notre Jenna Rollins, hein, maintenant. Elle a fait des progrès, elle peut tout jouer, cette fille. Hein, c'est... J'ai dit la nôtre. Faut voir ce qu'il y a autour.
Comme Dick Rivers par rapport à Elvis Presley, quoi.
Non, et Justine Triet, elle progresse de film en film, là. Elle a de l'ambition. C'est bourré de références, là. Alors là, vraiment assumé, puisque le tournage se
mais
passe.
Mais un peu trop, là, quand même.
Oui, mais c'est un film sur le cinéma, donc elle se fait plaisir. On tourne le film à Stromboli, sur un bateau, l'assistant n'arrête pas de crier silencio, comme dans Le Mépris de Godard. Et c'est assez bien, ça. Et cette fille qui devient, redevient.
C'est donc Sandra Hüller, qui est la réalisatrice allemande de ce film.
Oui, qui était l'héroïne de Tony Erdmann. Oui. Et le mélange littérature-psychanalyse marche très très bien. C'est qu'on voit que les psys, s'ils ne sont pas incarnés par des romanciers, ne valent rien, et peut-être vice-versa. La séquence dont tu parlais du début, le déjeuner avec l'éditeur, est vraiment tordante là sur l'état de la littérature contemporaine. La scène aurait pu être dans le dernier Assayas aussi. Non, c'est un film sur le cinéma, c'est un film sur le désir, c'est un film sur le dédoublement de personnalité, un film sur la famille, parce qu'elle a aussi une sœur qui se moque d'elle, qui apprend à son gamin comment manipuler sa mère. Il y a plein de choses.
Qui est Laure Calamy, qui est toujours très bonne.
Elle est marrante, elle est très bien. Et pour une fois, dans un film français, tous les dialogues sonnent très justes.
Pierre ?
Tout est faux. Mais alors, tout est faux, tout est archi faux. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que, vraiment, c'est à la fois complexe, tu as raison, parce que c'est difficile à résumer, tu as commencé, Jérôme, mais en plus, c'est complexe et... En définitive, à l'arrivée, c'est totalement simplet. C'est-à-dire que...
Oh. C'est simplex.
Oui, c'est ça. C'est rien. Mais c'est-à-dire que si l'idée, c'est que...
Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va écrire son livre.
Tu
vas pas l'acheter. Hein.
Peut-être qu'il vaudrait mieux que Justine Triet tourne pas son film, ou un autre film, en tout cas. C'est surtout ça. Non, c'est des clichés. Alors, surtout sur le cinéma, comme tu l'as dit, parce que quand même, des films sur le cinéma, il y en existe autant que Les Riches et les Pauvres pour Bong Joon-ho. Et alors là, c'est quand même effrayant. Si on pense à Minelli, si on pense à tout... Mais enfin, c'est rien. C'est un fantôme de film. Tout le monde est très mauvais, parce que personne ne sait quoi faire. Alors, si l'idée, c'est que, quand on est psy, l'idée, c'est qu'on se met à la place de sa patiente pour tourner un film. Il y a quand même une séquence. Alors, je sais, c'est volontaire.
Laquelle ?
La séquence où elle remplace la réalisatrice sur le tournage.
Oui, à Stromboli.
C'est grotesque. Alors, on va me dire, oui, mais Victoria, déjà, il y avait des tentatives un peu à la Howard Hawks de manipuler le spectateur jusqu'à l'absurde. Oui, peut-être un peu, mais alors là, c'est totalement loupé.
Xavier.
Je vais reprendre quand même ma très méchante insertion tout à l'heure. Le film aurait pu repartir avec un prix d'interprétation féminine parce que je trouve
Virginie Efira.
Absolument formidable, et elle sauve ce naufrage qu'effectivement le film cible.
Oh, naufrage, vous exagérez quand même. Non,
c'est rien. Je pense que aidée par le succès totalement immérité de Victoria, elle est arrivée chez son producteur, elle a dit j'ai plein d'idées et je n'en retirerai aucune. C'est dommage parce que au kilo peut-être que ça fonctionne, mais au cinéma c'est un peu plus embarrassant, madame. C'est-à-dire qu'elle a plein d'idées formidables. Je trouve que la psy qui est en train de voler à sa dernière cliente
avec son consentement,
voilà, pour en faire un roman, je trouve que c'est une très bonne idée. Sauf que, attention, sortez les sirènes de la psychanalyse, peut-être que cette histoire fait également écho à un drame intime, personnel, qu'on va nous remonter à coups de flashbacks totalement inutiles et bien appuyés. On a compris. Bon, elle a la peur du vide, la pauvre Justine Triet, donc il faut qu'elle mette plein de petites choses vachement rigolotes. Donc, Virginie Efira, dont je croyais qu'elle avait arrêté sa carrière, psychanalyse un gamin à coups de jeux de Monopoly. Alors, les séquences sont plutôt rigolotes, c'est-à-dire, t'achètes...
Mais ça, j'ai pas très bien compris, ça.
Mais pareil, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça a dû le faire rire beaucoup.
Le pauvre gamin,
Donc voilà, il achète la rue de la Paix, et du coup, elle est obligée de lui raconter quelque chose de sa vie. Elle achète la Banque de France, et du coup, c'est lui qui raconte un détail de sa vie. Ça ne fait jamais rien avancer. sur place.
Ça aurait été avec Bob l'éponge, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus.
Sur le plan de la psychanalyse, Bob l'éponge est très intéressant. Je peux t'en parler pendant des heures. Et on continue toujours comme ça à perturber ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait être fouillé. Mais du coup, elle n'a plus le temps de le faire avec des intrigues secondaires. Alors la réalisatrice couche avec Gaspard Ulliel, qui lui-même couche avec la comédienne.
Pourquoi Bonjour Lourdes devait le préserver, ne rien dire.
Et c'est là, c'est la première séance de psy. Excuse-moi, c'est au bout de 12 minutes. Peut-être que tu es arrivé en retard. Et je ne fais que raconter le premier quart d'heure.
Alors, sentais que t'allais aller plus loin.
Non, mais comme je sens que tu aimes le film, c'est que tu n'en as vu que 20 minutes, ce qui est normal. Normalement, elle pourrait être brillante. Mais malheureusement, elles sont dans un espèce de truc boursouflé, tape à l'œil, et malheureusement, là où il faudrait de la mise en scène pour ramasser tout cela, pour faire de cette espèce de, comme ça, de fouiller, comme l'a très bien dit Eric Neuf, quelque chose de brillant, et ben non, il n'y a pas de mise en scène, elle sait toujours pas le faire, quoi.
Jean-Marc.
C'est vraiment sublime. Pour moi, c'est vraiment...
Quand je vous dis que l'émission était dure à faire.
Oui, on est d'accord, 20 minutes suffisent.
Et ça n'est pas préparé, je vous le promets.
Non, c'était mon film préféré de Cannes avec le film d'Almodovar. Et pour moi, c'est deux films extrêmement jumeaux, qui ont quasiment le même sujet. C'est-à-dire que c'est deux films...
Jumeaux.
Ah oui, c'est deux films de créateurs en crise. C'est deux films qui sont des très complexes feuilletés de toutes les dimensions temporelles d'une vie. C'est-à-dire que tout à coup reviennent des scènes. Les gens sont sans cesse hantés par leurs premiers amours, parce qu'ils ont vécu. Et le personnage de Neil Schneider, qui est une sorte de fantôme, c'est un peu équivalent à la scène primitive érotique dans l'Almodovar. C'est un film qui va creuser toujours plus loin, de manière très très élaborée. Effectivement, comme un feuilleté, en ajoutant toujours une couche, en mélangeant des choses très drôles et des choses très mélodramatiques, avec une adresse, une habileté que moi je trouve inouïe. Je trouve qu'elle réussit absolument tout ce qu'elle tente, et le film est risqué en permanence. Et je trouve qu'elle atteint cette espèce de profondeur qu'il y a dans le Almodovar. Et c'est étonnant parce que c'est quand même une très jeune cinéaste. Et je trouve qu'il y a une maturité, une capacité d'entendement de la profondeur affective, existentielle d'un être humain que je trouve bouleversante. Et Virginie Efira est vraiment géniale. Enfin, ce qu'elle fait est prodigieux. Tous les acteurs sont très très bien, mais pour moi, ce qu'elle fait là, c'est encore mieux que dans Victoria. Elle prouve qu'elle est la plus grande actrice française.
Eh bien voilà, vous avez assisté à l'axe inédit, inrecuptible Figaro. Chapeau. Est-ce qu'il y a sur Sybille des réactions dans le... Oui, une réaction. Le micro vient vers vous. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Je voulais dire que je me suis pas mal ennuyée donc durant ce film. Alors, mon mari aussi, je parle en mon nom, mais aussi au nom de mon mari. Nous aimons beaucoup Virginie Efira, qui joue très bien. Tous les acteurs jouent très bien. Mais le temps nous a paru très long. Et j'ai eu l'impression que le film durait plus de 2 heures et qu'on n'allait pas en voir la fin. Je pense qu'il y a plusieurs sujets qui ont voulu être traités. Mais on n'arrive pas au bout de chaque sujet, donc on reste un peu sur notre fin finalement.
Donc, mais merci pour votre intervention, parce que moi j'ai eu le même sentiment que vous à Cannes. Quand j'ai regardé ma montre, j'ai cru que c'était 2 heures, et en fait j'ai vu que c'était 1h40, ce qui dans le cinéma actuel est quasiment un court-métrage. Donc j'ai eu le même sentiment que vous, donc je, si j'ose dire, je vous comprends.
Ceci dit, tous les acteurs autrement étaient parfaits, Virginie Efira comme d'habitude.
Merci en tout cas pour votre intervention. Oui, encore une autre intervention sur Sybille, le film de Justine Trier. Bonsoir monsieur.
Bonsoir, bon, je me permets d'intervenir. Nous on était 4 pour aller voir le film et on était tous des admirateurs de Virginie Efira. Peut-être on a beaucoup aimé d'ailleurs le dernier film, Victoria. Je crois qu'on aime probablement tous aussi les îles éoliennes et en particulier le Stromboli, mais franchement le film c'est quand même une suite de scènes plutôt grotesques. La scène d'amour devant la cheminée, Virginie Efira.
Virginie Efira est très belle, vous le reconnaissez.
Virginie Efira est très belle.
Calme-toi, Jérôme.
Franchement, Virginie Efira, chez les alcooliques anonymes, Virginie Efira qui chante lors d'une soirée de sortie du film, j'ai trouvé que des scènes complètement invraisemblables. Alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que d'habitude, je suis souvent en phase avec les critiques d'Eric Nohoff, et là, vraiment, bah non, pas du tout, du tout.
Ça vous passera. Vous.
Désolé pas de votre déception. Merci pour votre intervention. Maintenant, vraiment, je vous le demande, on va un peu plus vite sur les films qui viennent. Il était en sélection, mais hors compétition. Ce sont Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, avec Anouk Aimée, 87 ans, Jean-Louis Trintignant, 88, plus d'un demi-siècle après Un homme et une femme, Palme d'or, 1966, Anne Gauthier donc et Jean-Louis Duroc se retrouvent en Normandie. Elle tient une boutique d'antiquités, c'est très crédible, à Beaumont-en-Auge. Alors lui, il est prostré dans une maison de retraite de Tourgéville, où il perd la mémoire. Elle est toujours très belle. Il a la peau sur les os. Claude Lelouch, donc, orchestre leur retrouvaille à ciel ouvert sur l'herbe, notamment dans un plan séquence de 19 minutes que j'ai trouvé personnellement très émouvant. Alors autour de ces 19 minutes, évidemment, ça se gâte. Lelouch abuse des flashbacks en noir et blanc. Il organise une promenade en deux chevaux. C'est vrai que c'est moins rapide que la Mustang originelle dans le pays d'Auge et même sur les planches de Deauville. Il y a une visite de la chambre mémoire du Normandie qui n'est pas nécessaire. On se demande ce que fait Monica Bellucci en guest star. Et puis il y a surtout une nouvelle version du Shabadabada qui est digne de l'Eurovision. Mais ces 19 minutes, moi, de ce plan séquence, m'ont touché. Xavier.
Ah, ça se gâte et ça gâte. C'est ça le problème. C'est que c'est quand même un cinéma un peu de vieux. Enfin, c'est...
Ah bon ?
Alors il revient sur ses premières amours. Ça donne... Non. Très gentiment, ça donne quelquefois des choses absolument bouleversantes, tu l'as dit, le plan séquence de 19 minutes, et aussi la mémoire de ce cinéaste qui en fait n'a jamais réussi vraiment à se dépatouiller d'un homme et une femme. Ça l'a toujours hanté, c'est toujours revenu comme un boomerang dans sa gueule, on lui a toujours rappelé, il a fait plein d'autres films derrière, et on l'a toujours ramené à un homme et une femme, une caméra qui tourne autour des deux comédiens, les plages du...
La caméra tourne toujours, hein.
Tourne toujours.
Elle a toujours.
Alors quand il la pose, hein. Et quand effectivement il y a la beauté immarcessible d'Anouk Aimée qui est toujours aussi belle et qu'il y a ce charme d'effet mais qui se reconstruit à vue de Jean-Louis Trintignant, il se passe quelque chose. Mais quand il s'est obligé de citer ses films précédents, y compris ce court-métrage qu'il avait fait sur une traversée de Paris à moto de 9 minutes...
Non, voiture.
Non, c'est tout en moto.
Ah non. Non, en voiture.
Voiture.
C'est une voiture.
Moto.
Il passe même les guichets du Louvre à toute vitesse.
Oui, mes enfants, mais il l'a filmé en moto. Je suis désolé, puisqu'il refait le même coup. Ah non, lui, dans le chat, il a souri.
Mais lui est au volant de la voiture.
Mais non, pas du tout, c'est en moto. Enfin bon, bref.
Mais non, il sort de la voiture à la fin pour retrouver la fille.
C'est une moto.
C'est étonnant, en moto. Oui,
t'as pas ton permis, toi.
Non, c'est vrai.
Donc.
C'est une moto à quatre roues avec une carrosserie.
Oui, bah c'est ça. Alors.
Mais non, mais ça a été tourné en moto.
Enfin, de façon,
ça n'a aucune espèce d'importance. En tout cas, dans le chat et la souris, c'était en moto aussi. Donc cette façon de revenir
dans le chat et la souris, c'est en moto.
Mais c'est le même.
Mais non.
Mais c'est le même. Exactement. Mais voilà, Pierre et moi. Bon, tout ça n'est pas très grave. Donc ça fait un film effectivement qui prend un peu l'eau de partout. Les cauchemars de Jean-Louis Trintignant sont totalement inutiles et assez grotesques, il faut bien le dire, quand il se réveille comme ça et qu'il croit avoir tiré sur des flics qui avaient arrêté la deux chevaux. On en avait pas besoin, mais...
Attends, le pique-nique devant les vaches.
Non, le pique-nique devant les vaches, je préfère pas. Mais c'est vrai que c'est à la fois un film qui règle le compte de ce film d'un homme et une femme, et d'un cinéaste qui n'a jamais vraiment réussi à échapper à l'aura de ce premier succès.
Jean-Marc.
Moi, le film m'a ému un peu au-delà de ce à quoi j'attendais. J'ai vraiment été très très ému par moments. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est à la fois très simple, mais la mise en contact d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant, la manière dont ils offrent leur usure, tout en étant toujours de très grands comédiens qui sont capables de la jouer et en même temps elle est là. Je trouve qu'il y a un point d'ambivalence entre les deux qui est très troublant et qui est vraiment du cinéma.
Y compris jouer en ne faisant rien, parce que souvent Jean-Louis Trintignant ne fait rien, il ne parle même pas, et son visage s'exprime.
Et c'est très ambigu parce que on sent vraiment un très grand acteur qui peut exprimer en faisant très peu et en même temps il y a quelque chose de très généreux dans la manière dont il offre son physique extrêmement abîmé et ça c'est quand même vraiment assez beau. Après c'est arabiscoté, c'est un peu n'importe quoi, mais il y a aussi une légèreté de fabrication qui est, pour moi, c'est presque juvénile malgré tout. C'est-à-dire que je effectivement c'est un film sur la vieillesse mais avec cette fantaisie propre à Lelouch qui n'est pas sans charme. Et puis il y a quelque chose de quasi documentaire sur le quotidien dans un centre de gériatrie qui est quelque chose qu'on ne voit presque jamais.
Tu sais que ce centre de gériatrie, comme tu dis, cette maison de retraite qui s'appelle d'ailleurs
l'Orgueil,
c'est la maison de Claude Lelouch en Normandie, hein.
Ah non, j'ignorais complètement.
C'est sa maison.
D'accord.
C'est un film d'anticipation.
Mais en tout cas, c'est très c'est vraiment très bien restitué, je trouve.
Eric.
Non, mais c'est... Moi, j'aime assez le film. Parce que c'est un adieu. C'est comme le dernier volet des aventures d'Antoine Doinel. Et étant donné l'âge des protagonistes, j'avais un peu peur que ce soit l'amour en fuite avec un S à la fin. Mais c'est pas ça.
Oh là là. Ça, c'est
non
moins bon. Ça, c'est moins bon.
Bon, je vais à l'EHPAD. Pardon, j'y vais directement. Non, cette séquence de 19 minutes est quand même un grand moment de cinéma. Ces deux acteurs sont prodigieux. Trintignant, qui est presque un cadavre. C'est... Non, non, mais c'est frappant. C'est, et on le voit
C'est même bouleversant. Parce que,
avec rien, il exprime toute la gamme des sentiments.
Dans la scène du début,
ah, mais c'est,
où il ne fait qu'écouter et regarder.
C'est formidable. En plus, quand on sait qu'il ne voit pratiquement plus rien, il arrive à jouer avec son regard. C'est un tout, même pas un demi-sourire, un dixième de sourire. Et elle, c'est la grande Anouk Aimée, qui est quand même toujours magnifique.
C'est toujours
incroyable,
magnifique.
Ils ont le même âge. Et il se passe vraiment quelque chose. Et quand deux grands acteurs se rencontrent et que c'est Lelouch qui a écrit leur dialogue, vous avez raison, il y a une juvénilité, un truc qui est quand même assez beau et très, très émouvant.
Pierre.
Bah, comme dialogue, il y a une réplique qui est très bien de Trintignant qui lui dit « Quand je vois votre poitrine, je vois double. » C'est... Comme dialogue, c'est peut-être pas... Bon, enfin, non, ce que je voudrais juste...
Surtout, il y a cette manie de Lelouch de faire quasiment un aphorisme.
Ouais. Oui, oui, voilà, j'ai retenu celui-là parce qu'il est quand même assez gratiné.
Ouais, bah,
mais bon, alors...
Mais il dit ça en voiture ou à moto,
Je ne sais plus, je te dirai si je le revois. Non, je voudrais juste signaler, mais juste en 30 secondes, que la rencontre, là, 50 ans après, avait déjà eu lieu,
oui,
si on est totalement logique.
Oui.
Il avait fait un film qui s'appelait « Un homme et une femme », 20 ans après, c'est-à-dire il y a 30 ans.
Même,
il y a 30 ans, dans lequel ils s'étaient déjà retrouvés, ils pensaient faire un film sur leur histoire, et c'est Richard Berry qui devait jouer le rôle de Jean-Louis Trintignant dans l'histoire. Tout le monde a oublié, mais c'est très bien.
Ouais.
Non, c'est, vous avez tous dit que les deux acteurs sont magnifiques, la scène qui t'a fait pleurer ou presque, Jérôme,
non,
est en effet pleurer, très belle.
J'ai dit que c'était très émouvant.
Eh ben, elle est très émouvante.
Non, il y a un cheval dans la scène.
Il n'y a pas de chevaux.
Non, il n'y a pas de chevaux.
Et pourtant, c'est ma région.
Le reste est quand même un petit peu vieillot. Voilà.
Voilà, les plus belles années d'une vie, Claude Lelouch. Allez, vous me dites vite ce que vous pensez de Rocketman, de Dexter Fletcher, donc le choréal de Bohemian Rhapsody, qui était en sélection hors compétition, et que le biopic ultra autorisé d'Elton John, incarné par Taron Egerton. Voilà, on sait tout de lui, de Reginald Dwight, de son père militaire, de la mère qui aurait préféré qu'il soit hétéro. On sait ses addictions à l'alcool, à la drogue, au médoc, ses relations tumultueuses avec son manager, son parolier. Tout ça ponctué évidemment des tubes qui ont fait sa gloire. Elton John étant le producteur, en tout cas le coproducteur de ce film de 2h01. Là, je vous demande vraiment rapidement un sentiment, Pierre.
Ben, c'est moyen pas mal.
Moyen.
Non, mais au moins, on sait que, enfin, on dit dans le film qu'il est gay, parce qu'il y a certains films.
Puis on le voit.
Oui, non, mais attends, d'accord. Mais
c'est un scoop. Je vous signale.
Non. Bah, oui, mais dans le cinéma grand public, comme par exemple American
Bohemian
Rhapsody, c'était tout juste si on savait qu'il l'était gay. Donc c'est déjà bien. Non, ce que j'aime bien, c'est peut-être les mises en scène des chansons qui interviennent dans l'intrigue, surtout au début. Voilà. Le reste, on est très content à la fin quand on apprend qu'il est heureux, qui est depuis 28 ans.
Ben non, mais c'est tellement son saut qu'il a marqué de tout.
Oui.
C'est son film, c'est son.
Ben
c'est...
Oui. Non, mais ça n'a pas grand intérêt, mais enfin, ça se voit. Eric.
Ben, il faut aller faire des analyses quand on sort du film, parce que c'est quand même un gros gâteau à la chantilly. Là, le cholestérol va en prendre un coup. Mais c'est pas désagréable, c'est la biographie autorisée. Si on aime ses chansons, on sera très content, même si elles sont réorchestrées et chantées par l'acteur lui-même, qui est moins bon que Elton John. Et c'est dommage que ce soit lui qui ait coproduit et tout surveillé, parce que il s'entendait pas du tout avec sa mère, et il y aurait eu une scène fabuleuse, c'est que pour son 90e anniversaire, sa mère, qui était fâchée avec lui, a fait venir le sosie de son fils pour chanter à la fête. Faut le faire, ça. Et ça n'est pas dans le film, là.
Jean-Marc.
Moi, je trouve ça vraiment hideux. Je trouve que plastiquement, c'est d'une laideur inouïe. Les reprises, comme l'a dit Eric, des standards, des plus belles chansons d'Elton John. Qui n'a pas écrit que de belles chansons? Là, c'est plutôt les meilleures, mais elles sont massacrées.
Mais qu'on a écrit beaucoup de belles.
Dans les années 70.
Oui.
Après 83, c'est plus difficile de trouver les bonnes chansons.
C'est 83?
Ouais. Ça s'arrête en 83, le film. Et c'est effectivement le moment où Elton John cesse d'être vraiment prolifique comme compositeur. Je déteste la manière dont il y a un personnage vraiment de méchant, qui est le manager, qui prend vraiment tous les dysfonctionnements de la vie d'Elton John, il en est le responsable. C'est vraiment d'un manichéisme, d'une simplification que je trouve très très grossière. Et puis surtout, on a l'impression qu'Elton John est la seule pop star anglaise des années 70. C'est-à-dire aucun contexte sur la pop de l'époque, sur le glam rock, sur le swinging London. C'est que Elton John sans aucun travail un peu historique autour.
Un mot, Xavier ?
Oui, bah, vous avez tout dit. De toute façon, c'est effectivement pas très intéressant. C'est très camp, c'est très kitsch, c'est très appuyé. Moi, je m'emmerdais un peu parce que la musique d'Elton John m'a toujours totalement indifféré. Donc, je dois avouer gênant. Que...
Mais attends, mais il n'y a pas que Mylène Farmer dans la vie.
Eh ben si, eh ben si.
On attend le biopic.
Et alors, il faut savoir que, visiblement, les biopics, il faut être chanteur gay parce que le prochain à venir, c'est Culture Club. C'est le chanteur de Culture Club, Boy George. Voilà. Donc, les hétéros, pour l'instant, ils n'ont pas droit à leur biopic. Maintenant, il faut plutôt être gay et britannique.
Et Clo-Clo.
Mais Clo-Clo, il est mort.
Ah bon,
mais
bon.
Non. Hey, Freddy Mercury aussi.
Voilà, voilà, c'est la grande question. Rocket est-ce qu'il Man. Était hétéro, Clo-Clo?
Dexter Fletcher, un mot, je le regrette. Pour finir avec Anne, de ce film qui était hors compétition, qui est Être vivant et le savoir du filmeur Alain Cavalier, qui voulait adapter à sa manière le très beau livre d'Emmanuel Bernheim, Tout s'est bien passé, dans lequel elle racontait la mort volontaire de son père et que le cinéaste aurait incarné, et puis la maladie qui est un cancer a frappé la romancière dont il était, et Cavalier, l'ami depuis 30 ans et qui l'a accompagné jusqu'à sa disparition. C'était le 10 mai 2017, un film donc sur la mort, que Cavalier, plus Cavalier seul que jamais, saisit avec sa fameuse petite caméra portée. Là, je vous demande vraiment un mot, Xavier.
C'est une merveille, c'est le plus beau film de la semaine. Voilà.
Jean-Marc.
Je ne l'ai pas encore vu. Tu
l'as pas vu. Eric.
C'est tellement beau qu'on pourrait le regarder les yeux fermés en écoutant la voix si particulière de Cavalier. Et c'est le seul type qui filme les courges comme si c'était des visages. Et on voit des courges.
Courges, les légumes, absolument. Pas des comédiennes avec lesquelles tu as un problème.
Non, mais avec toi, on se méfie.
Ah oui. On préfère le vélo en éluité.
Et c'est un film qui a une gravité et en même temps un côté vivant terrible. C'est que Emmanuel Bernheim, qui est morte, on gardera d'elle le souvenir d'une fille qui mangeait de la glace à la réglisse en sortant de sa chimio.
Et qui a un sourire merveilleux dans ce film.
Ah oui, mais je croyais que c'était un mot. Moi, je me suis... Alors, j'ai obéi à l'injonction.
Pierre.
Eh ben, je rejoins totalement Xavier. C'est magnifique et c'est le meilleur film de la quinzaine. Là. Voilà. C'est
un
magnifique.
Film d'une heure vingt.
Magnifique. Allez le voir. C'est bouleversant.
Vive la République et les pommes de terre frites.
C'est parfois drôle malgré le sujet. Oui. C'est extraordinaire.
C'est splendide.
C'est qu'au début, il filme un billet puisqu'il va aller visiter une amie en Suisse qui va donc s'euthanasier.
Dans l'hypothèse de l'adaptation du livre de Bernheim.
Voilà, donc il raconte effectivement qu'elle va prendre la potion, qu'il vient la voir la dernière fois. Et puis, au même moment, dans la scène, il fait « Mais j'ai payé combien le billet ?»« Ah ouais, 200 euros quand même. » »« Ah oui, c'est pas donné quand même. » »« Ah oui, oui, oui. » Et subitement, il se met à divaguer sur le prix du billet. Et c'est tellement Cavalier, c'est-à-dire cette façon à la fois d'être dans le drame et en même temps d'avoir une espèce d'ironie sur la vie.
Mais là, je l'aime pas toujours, mais là, c'est magnifique.
Être
magnifique.
Vivant et le savoir... C'est Alain Cavalier et 3 minutes pour me dire s'il faut ou pas. Je ne l'ai pas vu. Allez voir X-Men, Dark Phoenix de Simon Kinberg avec un tas de monde. Il n'y a pas Mylène Farmer, mais il y a beaucoup de monde. Faut-il ou pas aller voir X-Men ? Eric ?
Je ne l'ai pas vu parce que, comme disait Danny Glover dans L'Arme Fatale, je n'ai plus l'âge de ces conneries.
On peut. Alors évidemment, moi je suis mal placé parce que je n'ai pas tout suivi, donc il n'y a pas... Je suis un peu paumé. Ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a le premier qui est passé à la télé.
On peut le voir.
Oui, oui. Le premier est passé à la télé, le premier qui était numéro 5, en fait, mais qui remontait tout au début. Donc ça m'a beaucoup aidé quand même pour le voir. Si, je t'assure que c'est... Et donc là, on comprend, en voyant le film à la télé, la base du truc. Et à ce moment-là, c'est pas mal. Bon, c'est toujours un peu comique, parce que ça devrait être shakespearien, ça l'est pas, évidemment, puisque la philosophie du film, c'est « tes sentiments vont te tuer, non, ils vont me sauver ». Voilà. À part ça, mais c'est spectaculaire.
Jean-Marc ?
Oui, moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup, et ce film-là m'a un peu déçu. Je le trouve quand même assez moyen. Il y a une chose intéressante, c'est qu'il revoit un peu les deux personnages principaux, voilà. Le professeur Xavier et Magneto,
d'après ce que j'ai compris, c'est ça,
complexifiant leur caractère, et le personnage très positif du professeur Xavier devient tout à coup insupportable de paternalisme, voire de sexisme. Et cette dimension-là, post-MeToo, elle est assez intelligemment intégrée au récit. Après, le film est un peu décevant sur les scènes d'action, qui parfois étaient très impressionnantes dans X-Men et qui là sont un peu décevantes.
Il y a Michael Fassbender, j'ai vu. Enfin, il y a Jessica Chastain, il y a une belle distribution. Xavier.
Moi, je déteste pas le film. D'abord, il fait 1h53, qui pour un film de super-héros est quand même la meilleure des nouvelles de la semaine. Hein. On n'est pas dans les 3 heures de Avengers. Jessica Chastain, en méchante, dont jamais un cheveu ne vacille et qui est juchée sur des talons de 25 cm. Classe quand même, respect, hein. Moi je dois avouer quand même, elle arrive à te traverser un train qui vrille sur lui-même sans être ni décoiffée ni déstabilisée par les talons. Mylène peut aller se rhabiller, mais, clairement.
Mais Michael, ah, Michael
ils ont les choses.
Mais si Mylène t'écoute.
Bah, non, là, elle répète. Elle doit même être en concert ce soir.
Michael Fassbender est très bien aussi.
Mais il est toujours très bien. J'ai un problème avec Sophie Turner, l'actrice principale qui vient de Game of Thrones, et qui a l'air aussi expressive quand même qu'une huître en fin de vie. Là, il y a un vrai souci quand même. Et elle est censée être torturée, divisée, perturbée, et rien. Nada.
Comme ça.
Elle fait tout effectivement avec un regard au loin. On aurait pu trouver mieux.
X-Men Dark Phoenix de Simon Kinberg. Allez, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Pierre.
Alors, un DVD qui vient de paraître d'un film qui s'appelle An Elephant Sitting Still. C'est un film chinois qui est sorti en janvier, qui est une splendeur. Alors, je vous préviens tout de suite, il est très long. Il dure plus de 3 heures. C'est pas le film le plus joyeux du monde, mais c'est magnifique. C'est le plus beau film de l'année pour moi. C'est sur dans la Chine actuelle, 4 paumés. Et c'est magnifique. Je peux pas dire autre chose que c'est un chef-d'œuvre. C'est un premier et unique, puisque le réalisateur a 29 ans, est mort tout de suite après l'avoir...
C'est suicidé.
Il est mort après l'avoir tourné. Mais vraiment, voyez-le, c'est splendide.
Tu rappelles le titre quand même ?
An Elephant Sitting Still, et c'est édité chez Capricci.
Capricci. Le conseil d'Eric.
Une reprise, Le Flambeur de James Toback, qui date de 1976. C'est James Caan, qui est un prof de littérature, qui est un joueur invétéré et qui doit 44 000 dollars à la mafia. Et c'est sa déchéance, sa descente aux enfers. Et avec lui, il y a la sublime Lorraine Hutton, qui était une des actrices les plus magnifiques. Et c'est le substrat du cinéma américain indépendant des années 70.
Mon conseil, ça s'appelle L'autre continent de Romain Cogitor avec Déborah François et Paul Amy. C'est 1h30, un pur mélo, mais dont Romain, qui est le frère du Clément Cogitor de Ni le ciel ni la terre, détourne et même subvertit les codes de deux jeunes traducteurs français qui se rencontrent, qui s'aiment à Taïwan, jusqu'au jour où lui est victime d'une leucémie et doit rentrer en France pour être hospitalisé. Ça pourrait être effectivement le mélo caricatural, mais la suite est une fable qui place le film entre le rêve et la réalité. J'ai beaucoup aimé ce film, L'autre continent. Le conseil de Jean-Marc.
Alors, c'est la rétrospective des films de Pedro Almodovar qui ressortent massivement, à la fois à Paris et dans plusieurs villes de province, à l'occasion de Douleur et Gloire, qui est un film qui donne vraiment envie de se replonger dans toute l'œuvre. Et là, il y a des films choisis sur les 4 décennies qu'a traversé Almodovar, depuis Pepi, Lucci, Bum et Les autres filles du quartier, qui est un film vraiment à hurler de rire, de drôlerie, à ses films les plus mélancoliques. Et moi, je conseillerais particulièrement La mauvaise éducation, qui pour moi est un des films mal connu et mal aimé d'Almodovar et qui est vraiment un chef-d'œuvre.
Jean-Marc, c'est très trop, on peut l'avoir partout en France ?
À la fois à Paris et dans les grandes villes de province. Ouais.
D'accord. Le conseil pour finir de Xavier.
C'est un film qui sortira mercredi prochain dans 3 jours, le 12 juin, qui s'appelle Un Havre de paix. C'est un premier film israélien de Yona Rosenkir, qui tourne avec ses 2 frères. C'est dans un kibbutz. On vient enfin de rapatrier le corps du père. Ça fait 1 an qu'il est mort, mais il n'arrive qu'au bout d'1 an. Au kibbutz, on va donc l'enterrer. C'est le moment, évidemment, pour les frères de faire le point, mais aussi pour l'un de pousser son frère à partir à la guerre, et de l'autre, l'autre frère, va empêcher le Benjamin de partir justement sur le front. Donc c'est une vision très resserrée, mais assez subtile et assez drôle parfois, d'Israël aujourd'hui.
Et le titre ?
Un Havre de paix.
Donc attention, c'est mercredi prochain.
Voilà, Rosenkir, mercredi prochain.
N'y allez pas ce soir. Merci beaucoup Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne, Eric Neuf, Pierre Murat, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française. Et je les remercie Delphine Baudet, Philippe Thibault, Mathieu Leroux. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le jeudi 20 juin. C'est au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour 2 émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature et je vous dis bien sûr à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.